Radio Kapi.
Félix Antoine Tshisekedi, devant l'Assemblée générale des Nations Unies ce soir à New York, le président de la République va revenir notamment sur le Covid-19 ainsi que des avancées dans le sens des droits de l'homme et de la promotion des droits des femmes. Vous entendrez sa porte-parole adjointe, Tina Salama. À propos de la mesure d'interdiction à certaines universités d'inscrire les étudiants en médecine, la conférence des chefs d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire appelle les gestionnaires des institutions frappées à introduire leurs recours. Et que deviendront les étudiants des universités affectées? Réponse avec notre invité, le coordonnateur national des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Santé. Baisse sensible de la fréquentation des malades dans les centres de santé depuis la grève des infirmiers. Constat de la division provinciale de la santé antenne de Butembo. Entre-temps, 23 nouveaux cas de Covid-19 sont enregistrés, s'inquiètent les autorités sanitaires de Butembo. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, s'exprimera ce mardi à la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Selon la presse présidentielle, le thème de cette session est « Miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever du coronavirus, reconstruire durablement, répondre aux besoins de la planète, respecter les droits des personnes et revitaliser l'Organisation des Nations unies ». Suivant d'autres précisions sur le contenu du discours du chef de l'État avec Tina Salama, sa porte-parole adjointe, à partir de New York, elle a été jointe par Alain Rumushinj.
Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son discours, va bien évidemment revenir sur la pandémie. Donc il va parler de la résilience, de la relance des économies africaines post-pandémie. Il va également parler, en tant que président de l'Union africaine, de l'équité dans la distribution des vaccins. Alors, il y a un autre problème, on va dire thématique, qui concerne le monde entier, c'est le réchauffement climatique. Et la RDC, comme vous le savez, a un rôle très important à jouer et compte l'assumer pleinement. Donc il sera question de parler environnement également sur la tribune des Nations Unies. Mais le discours de l'État va également aller dans le sens des droits de l'homme, des avancées au progrès qu'il y a eu dans les droits de l'homme. Aussi, la promotion genre, on va dire, est jeune, parce que depuis que le président est à la tête de la RDC, tout le monde l'a remarqué, c'est qu'il y a vraiment une avancée dans la lutte des inégalités faites aux femmes. Donc il y a eu plus de 20% des femmes dans le dernier gouvernement, et c'est une première, pas seulement dans le gouvernement, dans les institutions. On va également parler donc de la promotion des droits de femmes.
Notez que le président de la République a rencontré hier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les deux personnalités ont échangé sur les propositions des pays africains en rapport avec les réformes de l'ONU, a indiqué Tina Salama. Notez aussi que le discours du président Félix-Antoine Tshisekedi sera diffusé en direct sur Radio Kapi à 19h, heure de Kinshasa. 60 ans après la mort de Dag Hammarskjöld, l'ambassade de la Suède, son pays, et les Nations Unies ont organisé plusieurs activités en sa mémoire à Kinshasa et à Ndola, en Zambie. Dans cette ville zambienne, une stèle de Dag Hammarskjöld a été érigée le samedi 18 septembre en cours, dans la forêt où son corps a été retrouvé après le crash de l'avion qui le transportait le 18 septembre 1961. Question: qu'est-ce que la stèle du deuxième secrétaire général de l'ONU représente pour les habitants de Ndola? Que savent-ils de son personnage? Jean-Didier Ogobani revient de Ndola et nous propose ce reportage.
Quelques personnes interrogées à Ndola ne connaissent pas l'histoire de Dag Hammarskjöld. La réalité en dehors des écoles n'est pas la même que celle des élèves du collège secondaire de Fatima, le cas de Suzanne Nsambu.
Je suis historienne, on a beaucoup appris sur lui. Il est un bel exemple pour le casque bleu, pour le maintien de la paix. Il a dédié sa vie à la promotion de la paix dans le monde.
Tous les élèves interrogés s'en tiennent à la version officielle de la disparition de Dag Hammarskjöld. Il est mort dans un crash d'avion. À Ndola, les autorités officielles ont transformé la forêt où a eu lieu le crash en un site touristique. Une stèle est érigée au sein du site qui porte le nom de Dag Hammarskjöld. Des photos de sa vie sont exposées et une plaque est placée sur le lieu où son corps a été retrouvé. À quelques mètres de là, une école a été créée et qui porte également son nom. Christelle Kafouilo tente de donner un sens à cet endroit.
Cet endroit est un site où Dag est mort pour rappeler la mémoire des casques bleus de l'ONU et nous rappeler aussi que nous devons nous tenir pour la paix avec courage. C'est un rappel de sa mission.
De retour de Ndola, Jean-Didier Ogobani.
Direction le Nord Kivu. L'attaque qui a causé 8 morts mercredi dernier au village Mutendehero dans la chefferie de Bachou est l'œuvre des miliciens Mai Mai. C'est ce qu'a déclaré hier devant la presse de Beni le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur du Nord Kivu. L'officier annonce un redéploiement des militaires congolais dans cette chefferie pour combattre les groupes armés. Le général Sylvain Ekenge explique au micro de Guylaine Kassassia.
Constat. Cette tuerie serait l'œuvre des combattants Mai Mai, très actifs dans la région et très souvent utilisés comme supplétifs aux ADF. L'assaillant neutralisé par les FARDC à Makungwe est reconnu par la population en une preuve éloquente. Le dernier constat. Nous croyons à un règlement des comptes entre deux familles de la lignée, de la famille régnante et de la lignée royale autour de la gestion et de l'occupation de la colline sacrée de Mutembeo. Face à cette situation dramatique et pour mieux sécuriser les populations de la chefferie des Bachou, Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, a instruit le commandant du secteur opérationnel Sokola un grand nombre pour que des dispositions suivantes soient de stricte application. La poursuite des investigations pour déterminer les responsabilités de cette tuerie. Deuxième disposition, procéder au redéploiement des FARDC dans le Bachou pour traquer les groupes armés et nettoyer les poches résiduaires des terroristes ADF-MTM chassés de Mwalika jusque dans leur dernier retranchement.
Les députés nationaux d'Ensemble pour la République, plateforme de Moïse Katumbi, saluent l'adoption du calendrier de la session de septembre à l'Assemblée nationale sans que la loi Tshiani Nsingi ne soit retenue. S'adressant à la presse hier au Palais du Peuple, ici à Kinshasa, le député Gratien Irachan invite ses collègues d'Ensemble à la vigilance jusqu'à la fin de la session pour que toute la loi anticonstitutionnelle ne soit insérée dans le calendrier. Pour l'élu de l'Ituri, la priorité pour l'Assemblée nationale devrait être veillé à ce que le gouvernement affecte les recettes de l'État dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Gratien Irachan au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons accepté que ce calendrier soit programmé, mais Ensemble reste vigilant par rapport à la suite du processus parce que les calendriers restent ouverts. Donc ça veut dire qu'on peut aussi avoir d'autres surprises. Donc il faut que nous soyons vraiment vigilants pour éviter des désagréments. Toute initiative qui peut aller dans le sens de diviser la communauté congolaise ou soit l'intégrité du pays. Donc nous restons soudés au niveau de Ensemble pour barrer la route à tout projet de loi qui est inconstitutionnel. Ces projets de loi qui sont inconstitutionnels doivent être purement et simplement rejetés, déclarés irrécevables. Vous savez que le niveau social pour le moment ça laisse à déplorer, le massacre à l'Est qui continue. Et donc pour nous ce sont des préoccupations. Nous sommes en train d'exiger d'ailleurs que les conclusions de la commission défense et sécurité puissent être programmé à la plénière pour que l'Assemblée plénière puisse débattre de cette matière. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que l'état des sièges a montré ses limites. Il faut réorienter les choses. Et donc, pour nous, la priorité, c'est la population.
Je vous le disais en titre, la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire appelle les gestionnaires des institutions frappées par la mesure du ministre des tutelles à introduire leur recours. Son président, le professeur Frédéric Nyokala, déclaré lundi à Kananga à la suite de l'interdiction de recrutement des étudiants dans les universités dont les facultés de médecine sont déclarées non viables. Le Kasaï central ne figure pas sur la liste des 16 universités éligibles du ministre du secteur après les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Après avoir participé à ses travaux à Lubumbashi, le professeur Frédéric Nyoka Mupangila souligne que cette décision a été prise sur base des critères de sélection et d'une enquête menée sur terrain. Le professeur Frédéric Nyoka, président de la conférence des chefs d'établissement d'enseignement supérieur et universitaire, explique au micro de François Kadima.
Avant dans la Lubumbashi, les équipes d'enquêteurs ont été déployées partout au Congo et ils ont ramené les résultats à la tutelle. C'est sur base de ça qu'on s'est basé pour décider. Vous voulez organiser tel enseignement, est-ce que vous répondez aux critères? Et quels sont ces critères? Les infrastructures, les équipements, le corps académique qualifié. Est-ce que vous réunissez toutes ces conditions-là pour ouvrir telle faculté? C'est sur base de ça que les experts en état général de l'issue ont dû se prononcer en termes de résolution. Dans un premier temps, je voudrais inviter tout le monde au calme. Les parents, les étudiants concernés. Internet. Je voudrais les appeler, les inviter au calme et d'attendre. Et j'invite aussi les gestionnaires des institutions concernées par la fermeture de formuler leurs recours en termes de demande de moratoire avec les arguments valables. Je crois que l'État qui est organisateur va apprécier.
Vous venez de le suivre, les universités jugées non viables par le ministre de l'Enseignement supérieur peuvent introduire leur recours, mais que vont devenir les étudiants qui sont déjà inscrits en médecine dans les dites institutions? Écoutez la réponse du professeur Antoine Chimpi, coordonnateur national des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Il a été joint par Pierrot Elamenji.
On va catégoriser les établissements en trois classes. Vous avez premièrement les établissements qui ne sont pas conformes avec les critères de viabilité. Ceux-là, les autorités prendront leur décision, mais ils sont probablement voués à être fermés. Il y a une deuxième catégorie d'établissements qui remplissent les critères de viabilité, mais pas totalement. Il est estimé, par exemple, que les critères qui manquent, ils peuvent le corriger sur quelques années, 5 ans, et donc il est proposé qu'ils soient mis sous parrainage des établissements qui, eux, remplissent les critères pendant quelques années afin de leur permettre de corriger ces critères au fil du temps. Troisième catégorie, ça c'est les établissements qui remplissent tous les critères, ou en tout cas les minimums importants des critères. Ceux-là n'ont pas de questions à se poser, ils vont continuer mais tout en corrigeant ce qui leur manque. Si l'établissement est appelé à fermer, il y a des procédures qui feront que ces étudiants puissent être acceptés vers la faculté la plus proche. Ceux qui sont dans les établissements qui vont être mis sous parrainage avec un établissement qui remplit les critères de viabilité, vous avez compris, donc ça va être un fonctionnement qui va être mis en place entre les deux facultés, de façon peut-être ou à ne pas mobiliser les étudiants, mais donc en déplaçant les enseignants, ou l'inverse, tout ça, ça dépendra des conditions de terrain.
Entre-temps, les mises en place dans les universités congolaises se poursuivent. Hier, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a nommé les nouveaux dirigeants de l'université de Kinshasa. Le professeur Jean-Marie Kayembe est nommé recteur, le professeur Banza, secrétaire général académique, le professeur Lapika, secrétaire général administratif, le professeur Chimpi, secrétaire général à la recherche, et madame Ndwangani, administrateur de bureau. Retour au Nord Kivu. La fréquentation des malades a sensiblement diminué dans les structures de santé depuis la grève des infirmiers. C'est une observation faite par la division provinciale de la santé antenne de Butembo. Conséquence, le nombre d'échantillons pour analyser le coronavirus diminue au niveau des laboratoires de l'INRB Butembo et Beni, tout en encourageant les malades à se rendre aux structures de santé qui sont opérationnelles ou qui organisent les services minimums. Damoulou Luavo, communicateur de la DPS antenne Butembo, affirme que 23 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés la semaine dernière dans cette entité sanitaire. Damoulou Luavo le dit au micro de Florida Kahambu.
La semaine qui va du 13 au 19 septembre 2021, dans nos deux sites de Butembo et de Beni, nous avons eu à analyser 223 échantillons. Il en est sorti 23 qui ont été positifs. Et à Butembo, d'une manière détaillée, on a eu à recevoir 175 échantillons. Sur les 175, nous avons eu 17 cas positifs. Et à Beni, nous avons eu 48 échantillons, sur lesquels il y en a eu 6 qui ont été positifs. Et il y a plusieurs difficultés. D'abord, les échantillons ne viennent plus comme avant. Le malade ne s'oriente pas à des structures sanitaires. Il y a ceux qui restent à domicile, qui ne se soignent pas. Dire que les cas sont en train de baisser, je dirais que non. Le message, c'est de se rendre au niveau des structures sanitaires qui, eux, ont organisé un service minimum. C'est à eux de voir comment ils peuvent orienter maintenant les cas.
Actualité, Afrique Monde.
La sentence est tombée. 25 ans de prison pour Paul Roussé-Sabagina, l'ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines. Hier, un tribunal de Kigali l'a reconnu coupable de terrorisme pour son association avec le Front de Libération Nationale, la branche armée du mouvement rwandais pour le changement démocratique, MRCD. L'ancien directeur de l'hôtel des Mille Collines à Kigali, connu pour avoir permis le sauvetage de plus d'un millier de personnes durant le génocide de 1994, a été reconnu coupable d'avoir formé et financé le FLN, groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Un verdict sans surprise pour la fille de cet opposant de longue date du président Paul Kagame, alors que la Belgique, dont il est ressortissant, évoque un procès inéquitable.
L'invité.
Vous le savez, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire interdit à certaines universités d'inscrire les étudiants en médecine pour l'année académique prochaine, décision prise à l'issue des états généraux organisés dans ce secteur la semaine dernière à Lubumbashi. Selon cette décision, seules 16 universités ont le droit d'organiser la faculté de médecine en RDC. Qu'est-ce qui a milité à la prise de cette décision? Que deviendront les étudiants de ces universités et que devront faire les universités qui se sentent lésées par ces décisions? Réponse avec notre invité, le professeur Antoine Chimpi, coordonnateur national des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'entretient avec Pierrot Elamegi.
Professeur Antoine Chimpi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce qui est à la base de cette décision de fermer les facultés de médecine organisées dans certaines universités du pays?
La base de ça, c'est le problème qui est constaté dans le secteur médical dans notre pays depuis plusieurs années, où on a noté une diminution vraiment drastique du niveau de formation de médecins qui sortent de certaines facultés, devrait dire. Et cette baisse de qualité est notée aussi bien dans notre pays, mais que aussi à l'extérieur par des collègues ou des pays qui avaient l'habitude de noter l'excellence ou la qualité de formation, mais avec au fil des années, les choses se sont dégradées. Et le deuxième point, c'est qu'on a vu diminuer le nombre d'établissements qui forment des médecins dans notre pays de façon importante et de façon incontrôlée. Il y a un moratoire qui avait été donné, qui avait un décret signé par le Premier ministre, qui allait de 2013-2014 et pour 3 ans, qui demandait aux établissements de se mettre aux normes de viabilité. Et puis a suivi un audit organisationnel et puis après un audit de viabilité que vient d'organiser le ministre. Et puis pour le fac de médecine, quelque chose en plus, une enquête coordonnée par le Conseil national de l'Ordre de médecins. Et donc qui vérifiait le critère de viabilité des différents établissements pour voir s'ils étaient conformes et remplissaient tous les éléments pour former ou non. Et vous savez qu'à la suite de tout ça, nous sortons des états généraux qui viennent de 35 à Lubumbashi, où tous ces éléments ont à nouveau été évoqués, discutés. Les états généraux ont proposé des résolutions fermes pour trouver des solutions à ce problème, parce que nous ne pouvons pas accepter que dans notre pays que ce problème perdure et il s'agit de la vie tout simplement des Congolaises et des Congolais.
Quels sont les critères de sélection qui ont fait que les unes soient retenues et les autres ne puissent pas inscrire les étudiants en médecine pour l'année académique prochaine?
Si on veut former des médecins, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des enseignants qualifiés dans cette faculté de médecine pour former. Il faut un minimum de 3 professeurs résidents, c'est-à-dire qui est sur place pour le premier cycle de médecine. Il faut au minimum 2 enseignants pour le deuxième cycle. Deuxième point, il faut que cette faculté-là ait des laboratoires pour la pratique, des laboratoires d'anatomie, des laboratoires de biochimie, des physiologies. Il faut que cette faculté ait un hôpital universitaire ou des cliniques universitaires. C'est des choses minimales et de bon sens. Et il y a des critères qui viennent derrière, par exemple, être propriétaire du site où se trouve la faculté ou alors si on a un contrat de bail, qui est stable. Il y a des choses simples. Il faut quand même être sérieux, quand on forme des gens pour un pays, ça ne peut pas être laissé à la légèreté. Tous les établissements sont au courant de ces critères de viabilité qui ont été publiés et que peut-être qu'on va demander de les republier.
Quels deviendront alors les étudiants? Parce qu'il y a d'autres universités qui organisaient déjà les facultés de médecine qui n'ont pas droit d'inscrire pour l'année prochaine et qui ont déjà les étudiants inscrits en cours. Est-ce que derrière cette décision, y a-t-il des mesures par rapport à ces universités-là?
Bien sûr, on va catégoriser les établissements en 3 classes. Vous avez premièrement les établissements qui ne sont pas conformes avec les critères de viabilité. Cela, les autorités prendront leurs décisions, mais ils sont probablement voués à être fermés. Il y a une deuxième catégorie d'établissements qui remplissent les critères de viabilité, mais pas totalement. Il est estimé, par exemple, que les critères qui manquent, ils peuvent le corriger sur quelques années, 5 ans, et donc il est proposé qu'ils soient mis sous parrainage des établissements qui, eux, remplissent les critères pendant quelques années, afin de leur permettre de corriger ces critères au fil du temps. Troisième catégorie, ça c'est les établissements qui remplissent tous les critères, ou en tout cas les minimums importants des critères. Ceux-là n'ont pas de questions à se poser, ils vont continuer, mais tout en corrigeant ce qui leur manque. Si l'établissement est appelé à fermer, évidemment, il y a des procédures qui feront que ces étudiants puissent être acceptés vers la faculté la plus proche. Ceux qui sont dans les établissements qui vont être mis sous parrainage avec un établissement qui remplit les critères de viabilité, vous avez compris, donc ça va être un fonctionnement qui va être mis en place entre les deux facultés, de façon peut-être ou à
ne pas mobiliser les étudiants, mais donc en déplaçant les enseignants, ou l'inverse, tout ça, ça dépendra des conditions de terrain.
Y a-t-il une procédure des recours pour les universités qui se sentent lésées?
Oui, bien sûr qu'ils ont le droit de prendre contact avec le ministère des tutelles pour faire leur recours sur base d'éléments concrets. Il y a une fiche des critères de viabilité. Ils vont pouvoir eux répondre. D'ailleurs, ils ont déjà rempli pour beaucoup d'entre cette fiche. Ils savent très bien qu'il y a eu un audit de viabilité il y a quelques mois seulement. Donc ils ont cela. Mais s'ils se sentent lésés, évidemment, ils devront le faire.
Professeur Antoine Tipi, je vous remercie.
Notre invité, le coordonnateur national des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire, répondait aux questions de Pierrot et Lamengi. C'est la fin de ce journal. Coordonné supervisé par Alain Rongouchinge, vous pouvez le retrouver sur notre site www.radiocapi.net. Merci de nous rester fidèles.